Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 22 mars. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Ce matin, vous dire qu'on a un ciel qui est dégagé, c'est autour de moins 2 degrés. On prévoit une belle journée encore, du soleil 4. La nuit prochaine, ciel dégagé, moins 6. Et puis demain, encore là, 4 ou 5 degrés, peut-être davantage de nuages avant d'entrer dans une période de pluie. Ça va commencer dans la nuit de mercredi à jeudi. Et pour le reste de la semaine, on prévoit des averses. Faisons le point sur la guerre en Ukraine. On peut dire d'abord que le président Zelensky se dit prêt à négocier, demande à négocier directement avec Poutine, prêt à faire des compromis sur certains territoires. Mais entre-temps, ce qu'on peut observer, ce sont les difficultés rencontrées par les Russes pour progresser sur le terrain. Il y a des bombardements, il y a des frappes aériennes. Et on va en parler tout de suite avec Tetiana Ogarkova, qui est toujours donc dans l'ouest de l'Ukraine. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
On sent très bien que pour les Russes, sur le terrain, donc c'est extrêmement difficile pour eux d'avancer, donc de pénétrer à l'intérieur des villes.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison. On voit depuis une semaine déjà, même peut-être plus, que l'armée russe n'arrive plus à avancer, que le projet initial que de prendre au moins quelques villes a échoué. Je parle de Kiev, de Kharkiv aussi, lourdement bombardé. Même Mariupol les tient encore. Ils n'ont que Kherson. Et donc, ils n'arrivent pas à avancer. Donc, ils sont en manque de ressources. Visiblement, on voit des informations indiquant qu'ils cherchent à renforcer leur armée avec des gens venant de Syrie, avec des gens venant de Tchétchénie. Ensuite, on voit aussi la position de Biélorussie qui piétine sur la frontière depuis des semaines déjà, mais rien ne se passe. Et finalement, hier, Loukachenko, le soi-disant président de Biélorussie, a annoncé que les troupes biélorusses se retiraient de la frontière. Donc, on reste dans le flou. Est-ce qu'ils arrivent à revitaliser leur armée? Pour l'instant, on voit qu'ils sont au bout de ressources. Et d'un côté, c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, c'est une mauvaise nouvelle parce que, en se trouvant dans l'impasse, ils peuvent passer à autre chose, justement. En sachant que la Russie, c'est un pays avec armes nucléaires, ils peuvent envisager une escalade, justement, dans cette direction-là, malheureusement.
Est-ce qu'on peut, et vous avez raison, là, de souligner l'aspect qui est plutôt négatif, c'est-à-dire que, on voit de plus en plus de cibles civiles qui sont visées, donc la population comme telle qui est plus que jamais directement menacée.
Exactement. Donc on voit que leur activité se centre sur la population civile. Ce sont des bombardements insensés justement qui visent des civils. Une maison de retraite, par exemple, a été bombardée dans les jours précédents. Donc les retraités, donc c'est-à-dire ils savaient que c'était des gens âgés qui pouvaient rien faire. Après les enfants. À ce jour-ci, on décompte 115 enfants qui sont morts. À Mariupol, pareil, il y a les civils qui sont plus de 300 000 et qui restent à l'intérieur de la ville, qui souffrent de tout, en fait, de soif, de faim, de l'absence totale de toute aide médicale. Les gens qui sont morts, on ne les enterre pas d'après les témoignages qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force d'enterrer des morts. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que fait la Russie aujourd'hui. On se dit que ce sont des activités terroristes au sens propre du terme parce qu'ils visent des gens innocents, des gens qui ne sont pas armés et que, voilà, cette attaque, surtout par l'air, ils peuvent arriver à n'importe quel moment, n'importe où. Hier, on avait des sirènes aériennes en permanence ici, dans l'endroit où je me trouve. Tout est calme, mais on avait trois heures d'affilée dans la soirée des alertes aériennes, c'est-à-dire que ils essayent d'attaquer un peu à l'ouest aussi, mais visiblement la défense aérienne d'Ukraine était efficace, puisque rien, on n'a pas reçu de nouvelles où ça est tombé, qu'est-ce que ça a causé comme dégâts, mais justement, ils se vengent sur les civils, dans les villages qui entourent Kyiv, on reçoit des images, des informations dévastatrices en fait sur voilà la manière de se comporter. Ils entrent dans les maisons, ils agressent les civils, ils prennent la propriété. Parfois c'est ridicule, c'est absurde. Ils prennent des machines à café ou puis des toutes choses qui est là dedans et ils emportent tout. C'est une technique de, je sais pas, de cambriolage, de la terreur. Ça ne ressemble plus à une armée normale, ou bien comment vous pouvez imaginer une guerre d'une armée contre armée. Ils procèdent par terroriser les civils, et bien sûr c'est toujours dans le sens de faire la pression sur le gouvernement. Ils savent très bien que le président Zelensky, il a cette dimension humaine très très forte et qu'il commence ses journées en pensant aux gens à Mariupol, et donc leur idée est de faire la pression en augmentant en fait le taux de mort parmi les civils.
Merci beaucoup, Tetiana. On se reparle demain. Donc, Tetiana Ogarkova, journaliste qui est dans l'ouest de l'Ukraine. Alors, ce qu'on remarque, en résumé, c'est que les Russes utilisent encore les attaques par la voie aérienne, même des attaques qui sont lancées de la mer, et on vise le territoire. Mais quand on arrive à proximité des villes, on se rend compte que ça demeure quand même extrêmement difficile. Oui, il y a des percées. La Russie ne perd pas de terrain, mais en gagne très difficilement. Et l'Ukraine, malgré les ultimatums, n'a pas l'intention de déposer les armes et d'abdiquer la ville de Mariupol, qui, je vous le rappelle, est probablement la ville la plus dévastée et depuis le début de la guerre en Ukraine, et que sa population, comme le disait Tetiana, privée d'eau, privée de nourriture, privée d'électricité, alors que le président Zelensky se dit prêt à négocier une certaine reddition de territoire, notamment des territoires qui sont sous contrôle russe de toute façon. Et puis, il y aura cette rencontre de l'OTAN cette semaine qui est un point important. Jean-François Lépine nous le disait hier matin, c'est un moment clé, un moment charnière. Et quelle sera donc la réponse? Parce que devant la situation, la crainte, la peur, c'est l'escalade. Et est-ce que Poutine, trouvant que c'est pas assez rapide à son goût, pourrait opter pour des attaques plus agressives? Et là, on peut penser à des armes chimiques, à des armes biologiques ou encore à l'arme nucléaire. Et ce matin, il y a une excellente analyse dans le New York Times concernant le recours à l'arme nucléaire qui n'a pas été utilisée depuis 76 ans, donc depuis les attaques d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, comme d'autres superpuissances, contrôle des armes nucléaires avec un effet plus limité. Donc des armes pas aussi destructrices que ce qu'on a connu dans le passé, mais ce sont donc des armes plus petites, plus facilement utilisables, et la Russie pourrait donc décider de faire usage de ces armes pour cibler davantage. Donc ça demeure extrêmement préoccupant et dangereux, mais c'est pas tout à fait la stratégie là, classique, conventionnelle, à laquelle on est peut-être habitué. Alors voilà pour ce qui est de la situation en Ukraine. Puis on ajoute une note au sujet de l'Ukraine. Éric et Peter Boyko, qui sont des entrepreneurs québécois, là, originaires d'Ukraine, viennent de lancer ce qu'on peut appeler facilement le programme Québec Inc. Éric Boyko sera avec nous. D'abord, c'est le patron de Stingray. Et avec d'autres entreprises, il a décidé de créer cette espèce de programme visant à amener au Canada 1000 familles. Et à offrir à ces familles ukrainiennes, d'abord un emploi, deuxièmement un gîte et tout ce qu'il faut là pour s'installer et subvenir à leurs besoins. Et donc, ce sont des entreprises qui ont décidé de faire ça. Je vais les nommer quelques-unes. En tout cas, ça comprend Bombardier, Couche-Tard, CAE, Résolu, Pomerleau, Novacab, Brocolini, la Banque nationale, puis il y en a d'autres. Donc, des joueurs majeurs là, du Québec, qui ont décidé justement pour combler à la fois un besoin de main-d'œuvre, mais en même temps répondre à cette crise humanitaire, parce qu'on voit de plus en plus les déplacements. Et là, la question, c'est comment on va faire pour prendre ces familles puis les amener ici, et comment on va naviguer dans la bureaucratie fédérale? Ça, c'est une bonne question. Alors, M. Boyko sera notre invité tantôt. Rapport de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal. Ben intéressant. Notamment dans le merveilleux monde du recyclage. Alors, on apprend que la ville s'est fait voler, a été privée de profits, de revenus, Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Rikova, et là, je cite, avis aux avocats qui seraient tentés de poursuivre, là, je cite l'inspectrice générale, que les méthodes utilisées devraient faire en sorte que les contrats devraient être annulés. Ils ne le seront pas parce que ce sont les Montréalais qui seraient privés de ce service. Donc, elle dit, dans la balance des inconvénients, on n'a pas trop le choix. Mais en même temps, cette firme-là et son propriétaire devraient être sur la liste noire de la ville pour une période de 5 ans. Le système mis en place par l'entreprise prive la ville de Montréal de sommes considérables. Puis ils ont fait ça dans le dos de la ville de Montréal. La manœuvre ou les manœuvres, ce qu'ils ont fait en gros, c'est que tu as une compagnie qui vend à une autre compagnie les matières recyclées. Il y a un profit qui se dégage. La ville tire sa quote-part de ça. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces produits-là sont revendus à une autre entreprise, toujours dans la toile d'araignée de Rikova. Et là, on fait des profits quand même assez extraordinaires. Difficile d'évaluer les montants sur une longue période, mais on peut présumer que c'est à peu près un profit de 20 $ la tonne. C'est l'estimé de l'inspectrice générale. Donc, pour le seul contrat du centre de tri de Saint-Michel, ça représente 1 million de $ qui ne sont pas déclarés à la ville. Bon, la compagnie se défend, dit que c'est pas ça. Et là, vous avez, comme c'est souvent le cas, une toile qui nous amène un peu partout avec des compagnies, mais reliées à la même entreprise générale. Donc, l'inspectrice dit, ce sont des manœuvres trompeuses de la part de Rikova, puis la ville devrait sortir cette entreprise pour les 5 prochaines années, et barrer son propriétaire, l'inspectrice, avec nous. Puis, on ajoute même que l'UPAC devrait se mêler du dossier du recyclage. Important d'aller voir un peu ce qui se passe dans l'univers des ordures, de la collecte des ordures, puis l'univers du recyclage. Ces jours de budget à Québec, c'est le dernier budget avant le déclenchement des élections. Alors, comme c'est l'habitude, il y aura des mesures qui vont faire plaisir aux gens, notamment pour combattre l'inflation qui est à la hausse. Les projections sont bonnes, les revenus sont plus au rendez-vous qu'on pensait, mais l'inflation demeure une priorité, donc le pouvoir d'achat. Et aussi l'impact de la pandémie qui se fait sentir. Alors, ça va être intéressant de voir un peu les orientations du ministre des Finances. Et je vous le dis par expérience, là, ils vont annoncer un paquet aussi de petites mesures, tu sais, qui touchent des parties de l'électorat plus spécifiques. Et probablement un joli chèque qui va nous arriver pas trop loin de l'ouverture des boîtes de scrutin. C'est un classique en politique. Puis en plus de ça, on a annoncé hier des investissements de milliards de dollars pour les infrastructures. C'est drôle, quand j'ai entendu ça, j'ai eu une pensée pour l'époque de la commission Charbonneau, quand on annonçait tous ces milliards d'investissements. Alors, pour Montréal, juste pour Montréal, là, sur les 6,7 milliards, c'est 1 milliard d'investissements pour l'entretien et la réfection. Il y a une liste complète pour les 2 prochaines années. Bon, le président d'Air Canada, Michael Rousseau, était devant le comité des langues officielles de la Chambre des communes pour faire d'abord acte d'humilité, présenter ses excuses et nous expliquer de quelle façon Air Canada allait devenir un très, très bon citoyen, faisant beaucoup de place aux Français. Alors, d'abord, on écoute les excuses de M. Rousseau.
Je suis désolé. Je m'excuse encore ici. Et je prends la responsabilité de mes propos. Je regrette l'impact que cela a causé sur nos employés. Qui savra nos clients chaque jour dans les deux langues officielles? Je suis déterminé à faire mieux et je sais que j'ai appui de toute l'équipe d'Air Canada.
Bon, c'est un effort. Il suit des cours de français intensifs. Paraît-il qu'il a 2 professeurs, que c'est tous les jours, puis qu'il y a des devoirs à faire le soir, que bon, il chemine. Moi, je suis pas le genre à ridiculiser des gens qui maîtrisent pas de langue puis qui font quand même des efforts. Bon, il en demeure pas moins qui a dit qu'il n'avait pas besoin de ça pour vivre à Montréal, puis là, il s'excuse de ça. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que Air Canada est un citoyen corporatif délinquant en matière de langue officielle. Air Canada parle, fait croire, mais ne bouge jamais. Alors, hier, on nous a annoncé quoi? Qu'il y aurait donc des investissements consacré à la formation du personnel en français. Certains diront que c'est très peu, mais vous comprendrez qu'Air Canada ne veut surtout pas, même si le fédéral a le pouvoir, là, se faire imposer des amendes si par hasard, au cas, il ne serait pas capable de respecter. Autrement dit, on a un président qui essaie de baragouiner le français, qui l'apprend tant bien que mal. Tu dis bravo, un effort, minimalement. Mais surtout, on n'est pas convaincu personne que les priorités d'Air Canada sont nécessairement celles exprimées par le président. Et pourquoi? Ben parce que, historiquement, Air Canada fait la démonstration d'un certain mépris à l'endroit du français. C'est pas important, débrouillez-vous. Et malgré tous les avertissements du commissaire aux langues, Air Canada n'a pas fait grand-chose. Alors, vous jeterez un coup d'œil là-dessus dans vos quotidiens ce matin. Il y a aussi donc journée de grève, on parle de 80 000 étudiants. Tout ça, évidemment, pour protester contre la hausse des frais de scolarité. Bref, on revient à ce qu'on a vu il y a 10 ans, réclamant la gratuité scolaire. Puis on ajoute à ça d'autres grèves qui sont prévues pour dénoncer le manque d'efficacité dans la lutte au changement climatique. Alors, il y a des grèves qui sont prévues tant par des étudiants au secondaire, au collégial, à l'université, au cours du mois de mars, au cours du mois d'avril. On aura l'occasion de vous en reparler. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, parlons évidemment de la guerre en Ukraine. On peut constater un certain nombre de choses. On va faire entendre Tatiana tantôt, qui est dans l'ouest du pays. Mais d'abord, Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Il est toujours dans la capitale Kiev. Et Fabrice, disons là qu'actuellement, la capitale est frappée par ce couvre-feu de 35 heures, ce qui fait que tu es comme coincé dans ton appartement.
Ouais, c'est ça. La situation comme tout le monde, comme tous les habitants, enfin ceux qui en restent. J'ai fait des courses, un ravitaillement hier en fin de journée. La plupart des étals des magasins étaient quasiment vidés, d'ailleurs, par les gens qui faisaient des provisions. Parce que c'est déjà arrivé la semaine dernière qu'il y a un couvre-feu de 35 heures. Donc, on est coincé ici jusqu'à demain matin, 7 heures. Et je dois dire que, Paul, que si dans la ville, c'est très calme, il n'y a quasiment personne, c'est un couvre-feu total. Là, personne n'a le droit de sortir, hormis les forces de sécurité ukrainiennes. Donc, même les journalistes accrédités, on ne doit pas être dehors. Mais ce que je remarque, c'est depuis hier soir, j'ai le sentiment qu'il y a comme un regain d'activité au front. Moi, j'ai une vision que sur la moitié, à peu près, je suis un peu en hauteur. J'ai une vision que sur la moitié, il faut savoir que les Russes, ce qu'on a déjà dit, sont en arc de cercle, hein, du nord-ouest au nord-est. Moi, j'ai une vue que de la moitié, à peu près, du front. Et d'abord, depuis hier soir, j'ai compté 9 alertes. Depuis le début du couvre-feu, elles se sont succédées. Et depuis le réveil, ce matin, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruits d'explosion assez sourds. C'est difficile de savoir d'où ça vient à cause des immeubles. Puis je peux pas avoir, comme je disais, complètement toute la zone. Mais il y en a une, il y a trois quarts d'heure, que tout le monde a remarqué, qui était extrêmement forte, qui était ressentie jusque dans le centre de Kiev. Il y a des collègues journalistes qui ont indiqué sur Twitter que les vitres se sont mis à trembler, puis que les alarmes d'auto se sont mises à sonner. Et puis je dois dire que là, de ma fenêtre, je vois qu'il y a de plus en plus de fumée quand même, qui vient à peu près du nord, nord-est. À des intervalles quand même assez réguliers, beaucoup de colonnes de fumée noire. Donc c'est un peu mon sentiment, c'est difficile à estimer parce qu'hier j'étais beaucoup sur le terrain, donc prêtant peut-être moins attention à ce qui se passait d'une façon globale. Mais déjà j'ai le sentiment qu'il y a plus d'activité. Mais le maire, quand il a imposé le couvre-feu, parce qu'il y avait des rumeurs d'offensive russe, lui disait que c'était pas pour ça, c'était parce qu'ils sont toujours à la recherche de ce qu'ils appellent des saboteurs, c'est-à-dire des agents russes, soit des services de renseignement militaires, soit de forces spéciales qui seraient déjà infiltrées dans la ville pour soit faire du repérage, de la reconnaissance, soit pour effectuer des missions plus agressives. Donc pour l'instant, on en est là. La journée, on en est aujourd'hui, actuellement, il est à peu près 2h moins le quart. Donc, on va voir ce qui va se passer dans l'après-midi, plus tard cette nuit.
Avec ce que tu as vu depuis que tu es arrivé en Ukraine, par la frontière avec la Pologne et te rendre à travers les routes jusqu'à la capitale, si tu avais à résumer pour les auditeurs les impressions que tu as eues sur les contacts avec les Ukrainiens qui sont soit en train de se déplacer, ceux qui décident de rester, essayer de traduire peut-être l'état d'esprit des gens, là, on est presque à un mois là, de conflit et il n'y a rien qui indique que le cessez-le-feu est en vue.
Non, mais c'est un mélange, Paul, de stupéfaction et de colère. Je dirais même d'énormes rancœurs envers stupéfaction de voir que leur pays, qui est hyper développé, puis ils me disaient tous, nous, on se sent européens, on sent que l'économie roule. Quand on traverse le pays, là, on voit que c'est un pays, d'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, c'est que la moitié du pays est entre guillemets en paix. Puis d'un seul coup, on est précipité comme ça dans un front, dans une ambiance de guerre. À Kiev, il y a des gratte-ciels flambant neufs, des centres commerciaux, tout est vraiment impeccable. Et il y a cette guerre et les Ukrainiens disent « mais c'est pas possible ». C'est pas possible que les Russes détruisent tout ça. Et pourquoi, s'ils veulent annexer l'Ukraine, ils vont se retrouver avec un champ de ruines? C'est complètement stupide. Et évidemment, en plus, il y a de la colère, c'est-à-dire que ce que me disaient les gens la plupart hier, puis qu'ils répètent sans arrêt, c'est que plus les Russes bombardent, plus ils détruisent, plus les Ukrainiens se sentent unis, et puis chacun essaie de faire sa part pour essayer de gagner cette guerre, quoi. Mais en même temps, il y a beaucoup d'inconnus. Personne ne sait jusqu'où les Russes vont aller. Personne ne sait ce qui va se passer ce soir, demain ou le mois prochain, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice. On va se reparler demain matin, alors que le couvre-feu, en principe, donc, sera levé. Fabrice de Pierrebourg qui nous parle en direct de Kiev, la capitale.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ce matin, on va parler bien sûr de la situation en Ukraine dans quelques instants avec notamment Fabrice de Pierrebourg qui est dans la capitale qui est frappée par un couvre-feu. Mais il y a tout le volet humanitaire qui est important, c'est-à-dire de voir comment ces gens qui sont en déplacement, je rappelle le chiffre, là, c'est 10 millions d'Ukrainiens qui sont soit passés de l'autre côté de la frontière, principalement en Pologne, ou qui se déplacent à l'intérieur du pays. Voilà que des gens d'affaires décident de s'unir et d'offrir à des familles ukrainiennes de venir au Canada, de venir travailler au Canada, puis permettre à ces entreprises de s'occuper de l'arrivée de ces nombreuses familles ukrainiennes. C'est une idée, un projet lancé par Éric Boyko, qui est le président et chef de la direction de Stingray. Il est avec nous ce matin. Monsieur Boyko, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Il faut d'abord dire que vous êtes d'origine ukrainienne.
Oui.
Peut-être parler de vos origines d'abord, puis on parlera directement du projet après. Parlez-nous un peu de votre famille. Vous avez encore des gens qui sont là-bas.
Non, nous autres, mon père est ukrainien. Ma mère est canadienne-française. Alors, au 80e de mon père, on est allé revoir notre famille à Louvre. Alors, notre famille est basée vraiment dans la ville de Louvre. Alors, on est chanceux. On a fêté son 80e là-bas. On est une quarantaine dans la famille Boyko. Et après ça, on a décidé d'ouvrir un bureau même à Louvre, avec nos cousins. Alors, on y va souvent dans cette ville-là.
OK. Puis vous avez beaucoup d'échanges actuellement avec les membres de votre famille, avec vos cousins?
Oui. Présentement, ma cousine, sa fille et ma tante, hier, ont été acceptés à l'ambassade de Varsovie. Alors, c'est 14 jours. Je crois qu'ils vont venir en ville cette semaine. Alors, ma cousine, son enfant va venir chez nous. Car moi-même, j'ai deux petits-enfants. Ma tante va vivre chez ma mère. Et on a une autre cousine qui veut rester à Varsovie et elle irait chez mon frère.
OK. Parlez-moi maintenant de ce projet-là qui a permis, parce que je regardais la liste ce matin, là, d'aller chercher l'appui, on peut penser à Couche-Tard, Banque Nationale, Bombardier, Novacarp, KPMG. Vous êtes allé donc solliciter le Québec Inc. Quel est l'essentiel du projet? Qu'est-ce que vous allez faire?
Le but du projet, c'est un, que les compagnies du Québec réalisent que des qualités d'immigrants ukrainiens qui parlent très bien anglais, qui sont très bien éduqués, qui ont aussi en ingénierie. Alors, c'est vraiment de lancer le message. Au début, on voulait 10 compagnies à 100 employés chaque. Et vite, on est devenu 18. Et je peux vous dire que déjà ce matin, une douzaine d'autres entreprises veulent travailler ensemble. L'objectif, c'est de travailler ensemble pour un guichet unique, trouver des travailleurs là-bas et commencer doucement à travailler sur les documents, les visas pour les faire rentrer au Canada. Alors, sur le travail d'équipe, notre objectif, c'est 1000 employés pour le groupe. Mais vraiment, chaque entreprise va annoncer aussi leur propre projets internes, dont la Banque nationale, qui vont offrir des comptes de banque, des cartes de crédit, des conseillers financiers. Alors, chaque entreprise vraiment veut s'impliquer pour aider ces 1000 familles-là.
OK. Prenons le cas de Stingray, votre entreprise. Vous comptez recruter combien de familles, combien de personnes?
Alors, nous autres, notre objectif, ça va être entre 40 et 80. On a déjà des employés en Ukraine, des consultants qu'on travaille pour qu'ils reviennent ici. On a aussi beaucoup de consultants en Pologne et des membres de notre équipe sont même rendus au Portugal. Alors, ça les permet de venir travailler à Montréal. Et ils pourront décider, dans un an, deux ans, de retourner en Ukraine si la situation s'améliore.
OK. Et donc, l'idée, c'est pas juste le travailleur, c'est de lui permettre de venir ici avec sa famille.
Exactement. Alors, on les aide le logement, on les aide avec tout le... où trouver des emplacements. Mais c'est des salaires. Nous autres, un travailleur en technologie fait entre 80 et 120 000. Alors, c'est un travailleur qui peut facilement supporter une famille, louer un appartement et pouvoir contribuer à la vie montréalaise et canadienne.
Puis en même temps, vous avez aussi un besoin de main-d'œuvre, j'imagine, comme la plupart des entreprises. Ouais.
Moi, je vous dirais, dans le groupe de 18, si on ferait la liste de demandes de main-d'œuvre, on irait au-dessus de 100 000 emplois en recherche. Là. Tout le monde cherche des. Alors, si on avait demain matin 50 000 candidats ukrainiens qualifiés en ingénierie, tout le monde voudrait les engager, là. Alors, il faut juste aligner les deux groupes. On travaille fort avec les gouvernements. On travaille avec l'ambassadeur de la Pologne pour voir comment aider ceux qui sont en Pologne à rapatrier. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est intéressant. Et si on peut avoir une cinquantaine d'entreprises du Québec qui chacun engage 20, 40, 80 personnes, mais là, on peut faire une différence.
Et là, deux ou trois questions peut-être techniques ou logistiques. Là. Comment vous allez identifier, là, je comprends qu'il y a des démarches avec les ambassades et tout ça, là, mais de dire, voici, moi, par exemple, Stingray, ou moi, la Banque nationale, je cherche tel type de personnes avec telle formation. Comment vous les identifiez sur le terrain?
C'est ça, alors, ça, c'est le gros parti du travail. Nous autres, on a une compagnie avec qui on travaille là-bas qui s'appelle Geeks for Less. Alors, des ingénieurs pour... c'est un peu un nom marketing, mais eux autres ont déjà 1000 ingénieurs qui travaillent pour ce groupe-là. Alors, on discute avec eux autres comment qu'on pourrait avoir certains de nos ingénieurs venir à Montréal. Alors, il y a plusieurs groupes comme ça qu'il faut mettre en contact et voir lesquels sont prêts. Alors, le gros du travail, c'est vraiment le déchiffrage et le recrutement. Et c'est ça que le groupe va travailler ensemble pour s'aider.
OK. Une fois que vous les avez trouvés, comment vous les amenez ici? Ils achètent des billets d'avion, vous leur achetez des billets, vous notisez un avion, comment vous marchez?
Non, c'est du cas par cas, mais grosso modo, on s'occupe du visa, qui est pas si facile que ça.
Non.
Alors, on a un avocat qui spécialise dans visa d'immigration. Après ça, ça prend des tests biométriques. Après ça, on s'occupe de les amener au Canada. Au début, on a nous autres des ententes et des hôtels locaux pour le premier mois, là, pour avoir un loyer mensuel. Et là, après ça, on les infiltre dans l'équipe de Stingray avec leur famille. Leurs enfants auront le droit d'aller aux écoles québécoises. Le gouvernement du Québec, le ministre Boulay, a accepté. Alors, on peut pouvoir prendre leurs enfants à l'école, les garderies aussi.
Ça fait beaucoup de fils à attacher, là. Ça fait, ça paraît simple, mais en même temps, c'est assez compliqué. Ouais.
Mais la plupart des entreprises, dont Stingray, puis je parlais pas de Bombardier, ça fait longtemps qu'on engage des immigrants, là, beaucoup plus vers la France, l'Europe de l'Ouest. Fait qu'on est habitué, là, d'engager du talent en ingénierie. Et alors, c'est pas la première fois qu'on engage des immigrants, là.
Mais en même temps, il n'y a pas un risque pour un employeur, là, puis je comprends le geste humanitaire à ce moment précis, mais de dire, je forme quelqu'un qui peut-être va venir ici comme travailleur étranger, puis dans deux ans va dire, ben ça va mieux dans mon pays, je retourne. Est-ce que vous craignez de former et de perdre cette main-d'œuvre?
Ah, moi, je pense, en ce moment, on a un programme de 3 ans. On est content. Encore une fois, Ménage Jolie, Ménage Champagne, Fraser et Rodriguez nous ont bien aidés. On a 3 ans. Mais c'est sûr, l'objectif, c'est que si ça va bien, ils peuvent, comme n'importe quel employé, changer d'emploi et de retourner là-bas. Alors, au moins, entre-temps, ils contribuent. Et puis, ils peuvent aussi aider leur famille en Ukraine avec des salaires. Nous autres, nos employés à Louvre, un docteur fait 500 US net par mois. Fait qu'on a, plusieurs docteurs qui travaillent le jour comme docteur. La nuit, ils sont répartiteurs dans une compagnie de transport. Puis, ils font 1500 par mois. Fait qu'un docteur en Ukraine, c'est 500 US net par mois.
Pas beaucoup.
Non. Alors, ils sont contents de pouvoir travailler dans des salaires, on peut dire, nord-américains.
Mm-hmm. Sur le plan politique, comment vous regardez ce qui se passe là-bas? Comment vous réagissez face à la guerre? Puis un pays que vous connaissez où se trouvent encore donc des membres de votre famille?
T'sais, nous autres, l'Ukraine est très divisée entre l'Ukraine russe, hein, l'Ukraine de l'Est russe, qui eux autres sont orthodoxes et leur pape est à Moscou. Hein, alors, t'as vraiment été l'Ukraine de l'Ouest. Donc, exemple, moi je suis catholique, orthodoxe, Roman. Alors, c'est ça que le nom de mon père, c'est Roman Boyko. Là, on est très fiers d'être du côté de Rome. Il y a vraiment une division hein, entre les deux côtés. L'Ukraine devrait rester un pays neutre, hein, un peu comme la Finlande, la Suède, la Suisse. Moi, je pense que ça prend un cessez-le-feu rapidement. On n'est pas comme mon cousin qui a jamais mis d'armes dans sa vie en ce moment, puis mon autre Maxime là-bas, ils veulent contribuer, mais il faudrait trouver un cessez-le-feu. Puis je pense pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et ces discussions-là, je pense, ça l'a pas aidé. Là. On aurait dû dès le début dire non, on sera pas membre de l'OTAN pour pas arriver à un conflit. Puis tu sais, les Américains, quand les Américains s'impliquent dans une guerre, que ça soit l'Irak, l'Afghanistan, l'Ukraine, que ça soit le Yémen, Nicaragua, Rwanda, Congo. Après ça, je trouve que c'est jamais une bonne nouvelle pour les pays. Alors, faut vraiment réfléchir à trouver un cessez-le-feu rapidement.
Est-ce que les membres de votre famille veulent rester en Ukraine? Est-ce qu'ils veulent partir? Est-ce qu'ils veulent aller pas trop loin et revenir? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils se cachent dans les villes ou...
Ouais, nous autres, on est vraiment à la ville de Louvre. Et ouais. Vraiment, notre maison initiale est à Busk. Busk, c'est comme Saint-Sauveur, là. Alors, c'est pas une ville stratégique. Personne va aller. Puis on est très, très proche de la Pologne. Alors, ça serait le dernier endroit. Ben, que encore une fois, je sais pas qu'il y aurait. Alors, on est très, très, je vous dirais, sécuritaire. On est très chanceux. Quand on est décidé d'aller en Pologne, on a pris un train de 3 heures de Louvre à Varsovie. Une partie de notre famille est à Varsovie. Le défi, c'est que nos cousins, les hommes restent en arrière à Louvre. Et eux autres vont attendre c'est quoi les prochaines étapes. Sinon, dans nos 38 employés, 30 ont déjà quitté pour le Portugal, beaucoup. On paye des appartements. Et il y en a 10 qui sont docteurs, qui veulent rester, être docteurs, puis rester, puis attendre. Alors, c'est un mélange des deux.
OK. Puis vous pensez pouvoir avoir vos premiers employés ukrainiens à Montréal et leur famille quand?
Avec ma cousine, ce serait la première. Alors, elle a eu son application approuvée hier, alors 14 jours, avec sa famille. Et là, on commence nos employés qu'on connaît déjà, qui veulent rentrer. Alors, moi, j'aimerais ça que ce soit, si tout va bien, lundi prochain, on aurait déjà des travailleurs.
M. Boyko, merci beaucoup d'être venu ce matin. Félicitations, belle initiative.
Merci, M. Arcand.
Éric Boyko est le président et chef de la direction de Stingray. Donc, c'est d'aller chercher des familles, des gens qui vont venir travailler et les entreprises qui vont les prendre sous leur aile pendant cette période de transition, mais peut-être aussi qui vont décider de rester. Et vous retrouvez, je le disais, Bombardier, Couche-Tard, Banque Nationale, les produits forestiers résolus, beaucoup, beaucoup d'entreprises comme ça qui décident de à la fois combler un besoin en main-d'œuvre, pas en même temps poser un geste humanitaire.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, on va revenir à Montréal pour regarder un peu comment les affaires vont à la Ville. C'était la présentation du rapport de l'inspectrice générale de la Ville. Et disons que cette année, on va regarder de près ce qui se passe dans le monde du recyclage. Brigitte Bishop est avec nous. Madame Bishop, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Là, vous allez expliquer à mes auditeurs comment la compagnie Ricova, là, qui avait quand même à peu près tous les gros contrats là, en recyclage, a pu établir une stratégie de fonctionnement puis d'affaires qui a fait en sorte que la Ville de Montréal a perdu de l'argent. Comment ça marchait?
Bien, la façon que ça a marché, premièrement, Ricova a obtenu les contrats suite à une reprise de faillite de la première compagnie qui avait les contrats. C'est des contrats qui ont été donnés en 2018, finalement, à Rebut Solide Canadien, qui fait faillite. Ricova reçoit les contrats dans le contexte de la faillite. dès 2020. Alors, à partir de 2020, nous recevons beaucoup de dénonciations à cet effet-là. Et donc, l'enquête du BIC débute. On a eu certaines dénonciations sur la qualité du recyclage, ce qu'on a transféré à la Ville de Montréal, puisque dans leur contrat, il y avait des mécanismes de surveillance de cette qualité-là.
Juste une parenthèse, ouais. Quand vous dites de qualité de recyclage, vous faites allusion à quoi? Avez-vous des exemples de ça?
Bien, ce qu'on disait effectivement, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement un tri qui était fait de façon adéquate. Parce qu'il faut se souvenir, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que le contrat partait vraiment, faisait toutes les phases du recyclage. C'est un contrat de collecte, de tri et de revente des matières recyclées. Donc, c'était vraiment l'ensemble du recyclage okay. À Montréal. Et donc, dans le tri, on avait certaines plaintes à cet effet-là. Ce qu'on a transféré.
Okay.
Nous, l'enquête qui nous a préoccupés, c'était justement sur les montants d'argent qui étaient détournés à la ville. Parce que le contrat prévoyait un partage des profits et une compensation pour les pertes par la ville. Et donc, au niveau du partage des profits, ce qu'on a réalisé, c'est que Ricova, contrairement au contrat, parce que nous, il faut comprendre qu'on est toujours dans le contexte contractuel.
Oui.
Alors, dans le contrat, Ricova, lorsqu'il soumettait le prix de vente à la ville pour le partage, devait soumettre effectivement le prix de vente. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que Ricova International, qui est une autre compagnie Ricova, se prenait des frais de minimal de 20 $ par tonne. Ce qui semble pas beaucoup, sauf que quand on considère qu'on a transgé plus de 176 000 tonnes de déchets à Montréal, c'est beaucoup.
OK. Si je résume, là, puis c'est pas ça que vous me dites. Je suis Ricova, je vais chercher votre bac. J'amène ça. J'ai une entente avec la ville pour trier, puis après ça, vendre cette matière recyclable-là, puis je dois partager mes profits avec la ville.
Effectivement, selon okay. un calcul. Là.
Selon un ratio. Ce que Ricova a fait, ce que vous avez découvert, c'est qu'il y avait une société qui achetait, il partageait le prix à ce moment-là, puis il revendait à quelqu'un d'autre la matière recyclable, puis gardait les profits pour eux.
Exactement. C'est exactement ce qu'on a trouvé, c'est exactement ça. Et dans le montage financier, ce qu'on réalise, c'est que Ricova a plusieurs entités, mais qu'ils sont tous dénominateurs communs, même président, même adresse, et ils ont tous Ricova comme nom. Donc, on a Service Ricova, on a Ricova la Chine, on a Ricova International. Lorsqu'on demande pourquoi, le propriétaire des entreprises nous explique, c'est parce que seule une de ces compagnies, Ricova, avait l'autorisation de contracter était inscrit dûment sur le REA.
Vous avez recommandé hier de garder le contrat alors que normalement vous auriez recommandé de le résilier parce que l'impact serait trop négatif pour la Ville de Montréal.
Quand on parle de 176 000 tonnes de déchets, c'est énorme. Donc, on veut pas faire un bris de service. Le BIC travaille aussi pour les citoyens de Montréal. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le juste milieu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recommande la résiliation. Si moi, je l'avais fait, la résiliation aurait été effective 45 jours après le dépôt de mon rapport, ce qui est nettement insuffisant pour que la Ville puisse, en bon français, se retourner de bord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé quand même des plans d'action. Il y a plusieurs options qui ont été mises de l'avant par le service d'environnement de la Ville de Montréal, qui va être étudié par la Ville de Montréal, qui prendra la décision à ce moment-là pour optimiser la résiliation avec le service qui doit être donné aux citoyens.
Mais là, vous allez quand même assez loin. Vous dites, c'est une entreprise qui devrait être barrée pour 5 ans, puis son dirigeant de pas faire affaire avec la ville. Puis, ultimement, quoi, l'UPAC devrait se mettre le nez là-dedans?
On a référé. Dans ma loi, lorsque je considère qu'il y a des manœuvres dolosives, je réfère à un corps policier. Donc, j'ai référé à l'UPAC. Je me suis entretenue avec le commissaire hier. On va évaluer ensemble si l'UPAC peut avoir le mandat de faire quelque chose. Sinon, peut-être voir un autre corps policier. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il y a aussi des poursuites civiles dans le dossier. Donc, à ce moment-là, la ville pourrait possiblement aller en récupération aussi.
Comment vous dirais-je? L'univers des ordures, là. Les matières recyclables. Là, vous êtes devant moi, je vous vois rire, là, parce que il y a eu cette enquête faite par votre bureau, là, concernant, appelons ça les fling-flang sur les camions. On prend des ordures ici, on va porter ça là-bas, puis on respecte pas les contrats, puis bon. Et là, on est dans le recyclage, là, puis c'est pas un joueur marginal, là, qui, lui, se crée des entreprises, vend, revend, garde les profits. Ça m'a l'air d'un monde assez particulier, ça, poubelle et bac.
Écoutez, c'est incroyable. C'est un milieu où on doit constamment être là. ils comprennent pas. Donc, c'est l'avantage de la proximité d'un bureau comme le mien, c'est d'être sur l'asphalte. On est là, on est à Montréal, on voit ce qui se passe, puis on entend ce qui se passe. Mais c'est constant. On est toujours en surveillance. On surveille toujours ce milieu-là. Et d'autres, là, mais celui-là particulièrement...
Celui-là, il génère des problèmes, en tout cas, puis des enquêtes.
Tout à fait.
Y a-t-il d'autres milieux qui génèrent autant de préoccupations?
Ben écoutez, dans tous les contrats, j'ai une préoccupation.
Oui, mais des fois, tu sais, ça a l'air comme plus concentré à des places.
Oui, ben le déneigement, vous ne l'avez pas mentionné,
c'est vrai,
mais disons
c'est bon.
C'est une passion à notre bureau aussi.
Mais est-ce que, comment je dirais, vous remarquez des vieilles habitudes qui reviennent ou des anciens qui se sont fait sortir après la commission Charbonneau, par exemple, puis qui réapparaissent ou d'autres, je sais pas, des nouvelles formes de tentatives là, de corruption ou de collusion?
Oui, on remarque ça et je suis contente que vous le mentionniez parce qu'on le sait normalement dans le milieu criminel, c'est des cycles. Et là, on a le 10 ans de Charbonneau, on est tous dans le 10 ans. Donc, généralement, la guerre, les gens baissent leur garde et c'est là que ça reprend là. Et donc on doit être encore plus vigilant, mais les stratagèmes on les voit. Dans le cas du dossier Rikova, malheureusement, le stratagème, on s'entend que j'ai vu meilleur montage financier que ça là. Mais effectivement, on voit qu'on essaie toujours. L'an dernier, on avait déposé un rapport sur justement le déneigement où une entité qui avait été mise sur la liste noire a tout simplement réouvert une compagnie.
Avec sa femme, puis bon.
Exactement, fait qu'on le voit, ça. On voit encore ça, c'est clair. Il y a d'autres choses un peu plus sophistiquées. Nos enquêtes sont un peu plus longues. Quand vous regardez dans le dossier de Rikova, ça a l'air simple, mais c'est quand même une enquête qui a duré 2 ans. On a dû faire affaire avec un jury comptable. On a étudié les factures, on a étudié le stratagème. Donc, c'est un peu plus complexe, oui. Mais c'est ça. Donc, ça nous demande effectivement d'être proactifs puis de se renouveler constamment.
Parce que là, je voyais que tous les contrats publics, bon, vous vous occupez de la ville de Montréal, mais Québec qui annonce des milliards en infrastructures, quand je regarde l'augmentation, par exemple, des matières premières, des matériaux, tu te dis là, il va y avoir... En tout cas, il y a un potentiel de fling-flang assez extraordinaire.
Oui, puis ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a une équipe de vigie. Là, on voit les contrats publics, puis quand on regarde dans mon rapport annuel, on voit qu'on a ouvert beaucoup de dossiers. Ce sont des dossiers de vigie, des dossiers, on va aller voir un peu les appels d'offres, on va se questionner. S'il y a juste un seul soumissionnaire, on va aller voir pourquoi. Souvent, on va intervenir. Donc, on est là-dedans. Je trouve que l'augmentation des coûts des matériaux, c'est une belle excuse. C'est une très belle excuse. Fait que donc, on va aller voir. C'est sûr qu'on va aller voir.
Madame Bishop, merci d'être venue ce matin.
Merci.
Brigitte Bishop est l'inspectrice générale de la Ville de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va parler de la comparution hier devant le comité sur les langues officielles à Ottawa du président d'Air Canada, Michael Rousseau. Alors, deux enjeux. Un plus personnel, c'est-à-dire sa capacité d'apprendre le français. Alors, il nous a expliqué, bien sûr, que il suivait des cours très intensifs, chaque jour, chaque soir, des devoirs, puis il a présenté ses excuses. Puis je vous le dis, je vous le fais entendre, puis je suis pas le genre à brandir la cuillère de bois puis taper sur quelqu'un qui fait un effort. M. Rousseau fait visiblement un effort, c'est pas parfait, sa présentation aurait pu contenir beaucoup plus de français. C'est pas le cas, mais il y a un autre enjeu qui, je pense, est plus important. On va d'abord écouter sa déclaration.
Je m'excuse encore une fois. Et je prends la responsabilité de mes propos. Je regrette l'impact que cela a causé sur nos employés. Qui savra nos clients chaque jour dans les deux langues officielles?
Bon, on va lui souhaiter une immersion au Saguenay, puis que finalement, il va être en mesure de mieux contrôler le français. Puis c'est parfait, quelqu'un qui reconnaît, tu sais, même s'il disait qu'il pouvait vivre à Montréal sans apprendre le français. Il y a cette pression, puis il s'excuse. Ça, c'est une chose. Deuxième volet, beaucoup plus important, on sait tous que Air Canada est un des pires citoyens corporatifs qui est visé par la loi sur les langues officielles. Les présidents se succèdent, les promesses se multiplient, mais dans les faits, ça avance peu et beaucoup de consommateurs, beaucoup de clients d'Air Canada sont incapables de se faire servir en français. J'en parle avec Joël Godin, qui est le député conservateur et vice-président du comité, justement, sur les langues officielles du Canada. M. Godin, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
La première question, si vous aviez à me résumer ce matin les engagements clairs d'Air Canada pour améliorer la place du français, qu'est-ce que vous me diriez?
Honnêtement, M. Arcand, j'aurais pas grand-chose à vous dire. Il existe à l'interne, supposément, un plan linguistique pour protéger et aider le français à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, ce n'est pas sécurisant. Moi, ce que j'ai entendu hier, c'est que on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'important, c'est de protéger le français. Et ce que l'on met dans le plan, qui est supposément actif et rigoureux, selon les dires du président, ne rencontre pas les objectifs dans le sens où est-ce que on a fait une annonce pour faire la sollicitation d'employés. Et on demande aux employés bilingues de se manifester. Ils auront un raccourci. Mais le problème, M. Arcand, c'est dans la structure. Et lorsqu'on regarde le plan, les employés dans la haute direction, il n'y a pas ce critère-là. Alors, ça veut dire que ça ne peut pas descendre dans la chaîne au complet lorsque la tête n'est pas consciente de l'importance que l'on doit accorder aux Français chez Air Canada. N'oublions pas que le siège social est à Montréal. Ce n'est pas à Toronto, ce n'est pas à Vancouver ni à Calgary. Là. C'est à Montréal. Et au Québec, la langue prédominante, c'est le français.
Mais ce que je décode de ce que vous dites dans le fond, c'est que il y a aucune sensibilité dans les hautes sphères de Air Canada. On peut pas s'imaginer que cette absence donc de préoccupation va donner une préoccupation dans les étages inférieurs. Puis en réalité, là, de ce que je décode dans ce qui a été dit hier, là, on vous garoche quelques chiffres de formation en français, mais c'est à peu près tout. Là, il y a pas d'engagement mesurable sérieux là.
En fait, quand on parle de mesures, M. Rousseau me disait, m'a affirmé à moi lorsque je l'ai interrogé, que la situation s'est améliorée chez Air Canada. Je lui pose la question, sur quel indicateur vous vous servez, vous vous basez? Il me parle du commissaire aux langues officielles, mais il se dépêche de me répondre, mais les chiffres du commissaire ne sont pas les mêmes, alors on n'interprète pas les chiffres de la même façon. Mais je lui ai rappelé qu'en 2020 et en 2021, c'est normal que sa figure se soit améliorée. Parce qu'il n'y avait pas de voyageurs. Faut comprendre qu'on sort d'une pandémie. Alors, les arguments étaient mal ficelés. Je suis convaincu que M. Rousseau n'est pas très fier de sa sortie hier au Comité des langues officielles. Maintenant, ça lui appartient. Mais c'est décevant et ça fait 45 ans que Air Canada, il y a un problème culturel et un problème systémique à l'intérieur de cette entreprise-là. Et il manque de leadership dans le sens où est-ce que Air Canada devrait être un exemple. C'est une des seules compagnies qui est liée directement avec la loi des langues officielles. Exemple, lorsque on a discuté avec lui hier, je lui ai posé la question, est-ce que le commissaire aux langues officielles vous a affirmé que lorsque un président chef de direction d'une entreprise liée aux langues officielles fait une sortie, il doit faire ses discours 50% français et 50% en anglais? Il me dit non. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a une obligation de protéger le français et de l'utiliser. Et ça démontre qu'il n'est pas sensible et il n'y a pas de rigueur face à l'application de la loi des langues officielles.
Mais la grande question, c'est qu'on peut bien dire ça aux deux ans, puis à chaque fois qu'Air Canada comparait ou à chaque publication du rapport du commissaire sur les langues officielles. Là, vous avez le droit, en fait, l'État a le droit d'imposer des amendes à Air Canada.
Présentement, non. Dans la nouvelle loi, la loi C-13, oui, qui a été déposée il y a deux semaines, il y a effectivement une possibilité que le commissaire puisse déposer des amendes. Mais la particularité de cette loi-là, c'est qu'il y a un maximum de 25 000 $. On peut taper ses droits d'Air Canada, mais un maximum de 25 000 $. Et c'est bel et bien inscrit que ce n'est pas une amende punitive, c'est une amende incitative. Pourquoi limiter les amendes? Est-ce qu'on a l'intention vraiment de protéger le français? Et là, la question ne se pose pas à M. Rousseau. La question se pose au gouvernement libéral.
C'est sûr. Merci, M. Godin. Bonne journée.
C'est un plaisir, M. Arquette. Au revoir. À vous aussi. Bonjour.
Joël Godin est le député conservateur et vice-président du Comité sur les langues officielles du Canada. Écoutez, moi, depuis que je travaille en radio, je pense, là, c'est toujours la même histoire avec Air Canada. C'est un discours, c'est une promesse, c'est une garantie, c'est un engagement, c'est blablabla. Bla, bla. Et savez-vous quoi? Parce que je voyage avec Air Canada, puis je me souviens d'un vol où les employés étaient venus me voir en disant « Ouais, vous aimez pas beaucoup Air Canada. » J'ai un énorme respect pour les employés d'Air Canada. autant les gens qui travaillent dans l'entretien, bagages, à bord des avions, les pilotes, personnels, agents de bord et tout ça, là, pas de leur faute. Vous avez un mauvais employeur. Vous avez un employeur qui méprise le français, qui n'y accorde aucune importance, et pour qui c'est comme un boulet qu'on doit traîner, puis d'aller s'expliquer. Pensez pas là qu'un gars comme Rousseau, d'être pris pour apprendre le français, puis d'être pris pour aller témoigner devant un comité, ça le fait pas suer, ça. Pensez-vous qu'il va là avec le sourire, il doit sacrer en anglais, pain in the ass, il doit répéter ça aux 5 minutes dans sa limousine qui l'amène d'Ottawa à Montréal. Hier, il était en Zoom, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été ça au Canada. Puis sérieusement, là, dans ce que j'ai entendu hier, je vois pas comment ça va véritablement changer.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.